France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Clotilde M. Vers 19h45, le son du jour, I Got Heaven de Mannequin Pussy. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme pour nous faire découvrir la 39e édition du festival Vidéoforme dédié aux arts vidéo et numériques. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Clotilde M.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Vous tenez le rôle-titre d'Hamlet, de William Shakespeare, pas seulement, mais dans le spectacle mis en scène par Christiane Jataï, à voir à l'Odéon Théâtre de l'Europe jusqu'au 14 avril, avant de nombreuses dates en tournée, que je donnerai tout à l'heure. Une très bonne occasion de vous accueillir pour parler de ce spectacle, bien sûr, mais aussi pour revenir sur quelques moments importants, sur quelques rencontres importantes aussi dans votre parcours, et pour essayer de savoir un peu mieux comment vous pratiquez votre art. Alors, dans la famille M, il y a plus encore que dans d'autres familles le mystère de la vocation. Un père greffier au tribunal, une mère travailleuse sociale et une sororie dont vous êtes la benjamine. Trois filles qui vont toutes devenir actrices. Est-ce que vous avez comparé vos désirs avec vos sœurs? Est-ce que vous avez compris ce qui vous a amené toutes trois d'abord sur ce même chemin?
Je crois que nous avons été élevés dans les... Enfin, nous avons été élevés, c'est pas que je le crois, c'est que c'est un fait. Dans les années 80-90, où je pense régner une sorte de climat où ce qui réparait, ce qui mettait en lumière était d'être validé par le regard masculin. Et on a été toutes les trois en quête de cette lumière et de cette validation. Pourtant avec un père très aimant, très présent et qui nous valide absolument. Mais je pense que c'est ce qui était, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi, à quel point certaines vocations étaient liées à ça, comme une volonté de réparer quelque chose et d'être sous une... Donc on l'interroge aussi beaucoup aujourd'hui avec mes sœurs, ce désir-là, pourquoi ? Et comment on le retravaille aujourd'hui, comment on sent aussi... finalement, comment la vocation est arrivée plus tard en étant un vrai désir et pas une volonté de se conformer à un regard.
Une chose qui me semble importante, Clotilde Helm, ce sont des moments que vous avez passés dans vos années collège et lycée, aux audiences du tribunal de Troyes, où officiait votre père. Donc, il y avait quand même entre ces murs à peu près toutes les histoires et tous les sentiments humains. Est-ce que vous pensez que ça vous a marqué?
Oui, et récemment, c'est marrant, je lui ai demandé de me parler de sa rencontre avec Robert Badinter, parce que c'est toujours, il m'avait toujours dit, ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est les plaidoiries de Robert Badinter, les premières d'ailleurs à propos de Buffet et Bontemps, quand il n'a pas réussi à sauver leur tête, et il me rappelait, il m'a écrit toute un témoignage magnifique en me disant que voilà, il se souvient de sa voix qui vociférait dans le tribunal, qui disait vraiment, vous allez couper un homme en deux, deux d'ailleurs, et cette colère qu'il avait contre la mort, en fait. Et je pense qu'au théâtre, on a affaire avec cette chose-là, de lutter contre la mort, de lutter contre d'être au bord de l'abîme. Et ces témoignages de mon père par rapport à... m'ont vraiment marqué récemment, et en plus avec des choses aussi très... très anecdotique, enfin, et presque vulgaire de se souvenir qu'il était dans un fauteuil après avec, il m'a chouillé un cure-dent, et je me dis, mon père, après, l'a conduit dans sa R5, Robert Badinter pour la reconstitution aussi, assez macabre, à propos de Patrick Henry, dans une sorte de taudis troyen, parce que c'était à Troyes, dans ma ville natale, cette histoire, et il a sauvé la tête de Patrick Henry. Donc il a assisté aussi à cette plaidoirie-là. Donc voilà, je trouvais ça... Ouais, je pense que de traîner moi aussi, petite fille, dans ces couloirs-là, d'assister à des procès auxquels j'étais pas vraiment en âge d'assister du tout. Bon, j'ai pas assisté au procès de Patrick Henry, hein, parce que vous verrez que dans les dates, ça colle pas.
Non, ça ne colle pas.
Ça colle pas. Mais voilà, oui, je pense que c'est toute une sorte de théâtralité aussi, et de vérité en plus que de théâtralité, et de quête de vérité, en fait, de voir plus que... C'est marrant, c'est aussi, on a beaucoup parlé de ça avec Christiane Jataï pendant notre recherche, et d'être dans l'hyper-réalisme, dans la quête de vérité, et pas dans un naturalisme qui ressemblerait... cet abîme, ouais, ce gouffre avec lequel frayer toujours, en étant hors de danger pourtant. Ouais. C'est ça qui est fabuleux, c'est que elle me répète, et je le crois, je le sais, je le sens, elle ne lâche pas ma main. Ouais. Et pourtant, je suis au bord du précipice tous les soirs.
Je reviens encore un petit peu en arrière évoquer les années d'adolescence. D'abord dans le mannequinat, l'installation à Paris, les études de lettres à Sancier, puis le cours Florent, et en même temps les soirées au théâtre en spectatrice avec notamment des spectacles signés Christiane Loupa, Claude Régier ou Alain Platel. Qu'est-ce qui vous fait vous dire, Clotilde M., que c'est ce métier-là, cette voix-là, celle de comédienne que vous voulez faire ?
Je crois que j'ai profondément envie de devenir sujet. Que depuis le début, je crois que j'ai voulu me conformer à un regard. J'ai plus le mannequinat. Enfin, il n'y a pas un métier au monde où on est plus objectifié que dans ce métier-là. Et ensuite, le cinéma d'auteur, on l'est aussi. J'ai pu par ailleurs, dénoncer aussi cette forme de droit de cuissage, sous couvert de. D'art, quoi, légitimé par la puissance de l'art, en fait. Et c'est donc, oui, je pense que c'est un parcours qui est lié aussi à un contexte social et contexte politique qu'on est en train de revoir aujourd'hui, vraiment profondément. En fait, c'est une refonte de la société, c'est pas seulement une mise en rapport, enfin voilà, une lutte contre des pouvoirs et des forces de domination. C'est vraiment je pense, on revient de très loin en termes de déni de comment on a pu se construire, et qu'il s'agit aujourd'hui, tel Hamlet, de regarder révéler les crimes cachés, d'être en face de ses propres crimes. C'est un grand mot, hein. Mais quand même, c'est être une sorte de prise de conscience et de pouvoir ensemble essayer de modifier. En modifiant une chose, on peut peut-être changer une société entière.
On va revenir
sans le faire à plusieurs.
Évidemment, oui, c'est certain. Sur cette dimension-là, dire qu'il y aura ensuite le conservatoire, on l'évoquera plus tard, la rencontre importante avec Catherine Liégen, mais on y reviendra. On va surtout parler de théâtre aujourd'hui, mais vous travaillez depuis de nombreuses années maintenant, Claude Indem, avec une constance rare, et pour le cinéma, et pour le théâtre, et puis aussi ces dernières années, un rythme plus soutenu pour la télévision. Début sur grand écran avec Jérôme Bonnel dans Le Chinois dans le gars, très vite donc Les Amants réguliers de Philippe Garrel, Les Chansons d'amour, Christophe Honoré, puis il y aura Bertrand Bonello, Les Frères Larieux, Raoul Ruiz, avant la rencontre avec Alix Delaporte pour Angèle et Tony, qui voudra le César 2012 du meilleur espoir féminin. Côté théâtre, il y a Thierry de Peretti, Christophe Roque, Luc Bondy, mais surtout aussi le metteur en scène François Orsini, rencontré au cours Florent Orsoni. On va l'écouter en 2010, évoquer son travail au micro d'Olivier Naoum sur France Musique.
J'ai monté Jean Lachance vraiment...
Par hasard,
non, mais sans monter brèche, c'est-à-dire que c'est un texte qui a été traduit en français il y a très peu de temps, il y a 3 ou 4 ans, et je vois un texte à la FNAC, Jean Lachance, Bertolt Brecht. Connaissant un peu Brecht, je me suis dit, je ne connaissais pas du tout ce texte. Donc c'est la curiosité qui m'a amené à lire ce texte, et quand j'ai monté ce texte, je ne montais pas un Brecht, parce qu'il y a une espèce d'orthodoxie brechtienne, si vous voulez, quand on s'attaque à Brecht, tout d'un coup, pourquoi, mais qui êtes-vous, comment,
introspection, mais qu'est-ce que vous pensez de la...
monde.
Qu'est-ce que vous pensez de la distanciation? Mais attendez, c'est important. Enfin, vous voyez, il y a une orthodoxie brechtienne qui est très très lourde. Et moi, je me suis débarrassé de ça très vite, parce que quand j'ai monté Jean Lachance, j'ai vu que sur mon bureau, à un moment donné, j'avais 20 livres de théorie brechtienne. Et pour faire des spectacles, c'est pas vraiment très utile. Ce qui est important, c'est
d'avoir
des...
si on veut être ludique.
Voilà. Il faut avoir des images, des bonnes idées, des... Et je crois que Brecht était ludique dans ses spectacles. Enfin, quand le Berliner Ensemble faisait des spectacles, c'était très cocasse. Mais voilà, il y a un Brecht des années 70 qui s'est politisé, qui est devenu très très sérieux. Et puis cette notion de distanciation a fait qu'on s'est mis à jouer du Brecht de loin, vous voyez, en incarnant le moins possible. Bref, donc moi j'ai essayé de faire du Brecht d'une façon intuitive. Et comme c'est un grand auteur, il y a intrinsèquement dans l'œuvre des pistes qui vous sont données. C'est un grand auteur, c'est un grand écrivain, mais c'est surtout un grand auteur de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une géométrie, une spatialité dans son écriture qui s'impose sur le plateau si on est à l'écoute du texte. Donc j'ai travaillé comme ça.
Jean Lachance, c'était le quatrième spectacle que vous faisiez avec François Orsoni, et suivra au Festival d'Avignon en 2010, Bâle, toujours de Brecht, où vous jouez le rôle-titre masculin, Clotilde M. On va revenir sur cette dimension en parlant du Hamlet que vous incarnez en ce moment. Et François Orsoni, il occupe quelle place dans votre formation sensible?
Ben oui, on s'est rencontrés au cours Florent avec toute cette bande, Alban Guyon, Thomas Landbeau, et enfin, une très très belle équipe, et c'est les années de jeunesse.
Vous dites ça avec un sourire.
c'est
loin de vous maintenant, c'est ça que ça veut dire aussi?
C'est pas loin, mais moi j'ai le sentiment de plus appartenir à aucune famille. Mmh. Je pense que toutes les familles sont dysfonctionnelles et sont dangereuses. Non, mais il s'agit de...
Ça c'est parce que vous jouez Hamlet en ce moment,
ça vous marque. Non, mais voilà, ouais.
C'est une époque.
C'est une époque, ouais. Bon.
Alors, avant d'évoquer votre actualité théâtrale, on va évoquer l'actualité tout court, qui n'est pas sans lien, puisque ce Hamlet que nous propose Christiane Jatei, et dont vous incarnez le rôle-titre, donc, est un Hamlet qui fait entendre la voix des femmes, celle d'Hamlet, donc, mais aussi celle de Gertrude, la mère d'Hamlet, celle d'Ophélie, qui est certes une victime, mais une victime qui prend la parole dans cette production, ce qui change beaucoup de choses dans la dramaturgie. L'actualité, vous avez aussi souhaité l'évoquer à travers votre choix musical, Clotilde M., qui s'est portée sur une chanson de 1974, signée Anne Sylvestre. Quelle est cette chanson?
C'est « Non, tu n'as pas de nom », qui est sur la question du choix d'avoir un enfant ou pas, et qui est devenu un hymne féministe dans les années 74, au moment où Simone Veil a obtenu la loi...
Pour la légalisation,
de l'IVG. Exactement. Donc l'IVG vient de rentrer dans la Constitution, on peut s'en réjouir, sauf qu'il faut maintenant aussi... peut-être qu'une autre loi devrait disparaître, c'est la clause de conscience. Donc aujourd'hui encore, un médecin ou une sage-femme peut refuser de pratiquer l'IVG. Et puis il faudrait donner des moyens aux plannings familiaux, et puis voilà, rendre en fait efficient et tout à fait l'accès pour toutes à l'IVG, ce qui n'est pas encore vraiment le cas.
On écoute Anne Sylvestre.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom, ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Anne Sylvestre chantait cette chanson il y a tout juste 50 ans. Bon, c'est effectivement cette entrée de l'IVG dans la Constitution, mais bien d'autres questions qui concernent toutes les femmes, et des questions qui concernent plus particulièrement des femmes comédienne. En 2022, vous avez participé, Claudine Nem, à ces lectures mises en musique de l'essai de Mona Chollet, Sorcière. Vous êtes une membre active de l'association des actrices. La petite Che Guevara, comme vous surnommez vos sœurs, a certes grandi, mais on entend, vous n'avez rien perdu de votre liberté de parole, de votre désir de justice. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très présent, j'ai l'impression, dans votre vie.
Bah, c'est d'autant plus présent que au sein de l'association, notamment, on entend encore des témoignages auquel on a pu qu'on a pu entendre il y a 20 ans quand j'ai commencé ce métier, 25 ans. Donc c'est en fait quand on se rend compte que ça perdure et qu'il y a toujours un système à l'œuvre qui est celui de la domination de certains sur certaines la plupart du temps, bah voilà, on peut pas rester muette. Quand j'ai pris la parole au moment de à propos de Philippe Garrel, c'est que depuis 15 ans, j'entendais des témoignages. On m'appelait, on me demandait « Alors toi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que moi, ça... Enfin voilà, ça, c'était récurrent. Donc j'étais, je pense, en mesure de prendre la parole. Donc je l'ai fait pour celles qui ne le pouvaient pas et qui ont encore peur de parler ou qui sont dans une... oui, on a peur de ne plus travailler, c'est évident. Donc il y a des rétorsions économiques qui sont ensuite qui sont pas non qui existent. Donc oui, je parle et je trouve que dire la vérité, c'est toujours un risque. On vient d'entendre Anne Sylvestre. Elle n'était pas diffusée à la radio il y a 50 ans parce qu'elle disait ce qu'elle disait là, ce que vous avez entendu, qui n'est pourtant pas, qui est juste dire la vérité sur les femmes avec la poésie. Donc si on peut continuer à parler, à dire les choses et que ça, on peut être soutenu, il faut continuer à le faire, oui.
On revient, Clotilde, à ce chemin qui amène à cette nouvelle production d'Hamlet, en ce moment à l'Odéon Théâtre de l'Europe, dans sa salle historique du 6e arrondissement, avec une autre femme importante, je l'ai évoquée, Catherine Yégel, qui était votre professeure au conservatoire et que vous avez retrouvée en 2018 quand elle vous a mise en scène dans Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Elle était mon invitée au mois de novembre dans cette émission. On va écouter un extrait.
C'est important s'il est juste. Ça m'est arrivé d'avoir des costumes, voilà.
Non faux. Juste, faux.
Ah, oui, et c'est très gênant. Mais un costume, moi par exemple, quand je mets en scène, je suis à tous les essayages des costumes. Parce que je veux que l'acteur se sente bien, soit bien, que rien ne le gêne, même s'il y a corset, contraintes. Certains costumes classiques sont des véritables contraintes. Et j'essaye aussi que les acteurs, ça c'est le luxe inouï qu'on a eu avec Strehler, et malheureusement qu'une seule fois dans ma vie d'actrice, on a toujours répété en costume. Tandis que très souvent, quand vous avez un costume classique, on vous l'amène dans la dernière semaine ou dans les derniers 10 jours. Et il faut s'habituer, il faut tout, habituer le corps, les gestes, et tout se construit avec le corps. Et un costume, si un acteur est mal dedans, et ça va boiter à l'intérieur de lui pour se trouver. C'est très important un costume. Il faut qu'il soit juste par rapport au personnage, par rapport à l'ensemble. L'histoire du costume me passionne aussi. Ben parce que c'est pas une histoire de chiffon. Moi, j'en ai rien à faire de la mode. Mais l'histoire du costume, ça raconte énormément de choses au niveau politique, moral. C'est énorme. Et ça a un sens très fort.
Alors, Catherine Hegel, elle parle ici de choses très concrètes, Clotilde, mais c'est une dimension, cette dimension concrète du théâtre, ce lieu où tout le corps est en jeu, ça, c'est quelque chose qui vous importe, qui est peut-être aussi un héritage de ses cours au conservatoire. Dans un entretien, vous avez comparé le théâtre à la boxe. On peut se souvenir en clin d'œil au spectacle Stallone, adapté d'une nouvelle d'Emmanuel Bernheim, mise en scène par Fabien Gorgeard, qui vous a d'ailleurs valu un Molière, pour ce rôle, cette femme marquée à jamais par le Rocky de Stallone, un modèle de vie. Le théâtre, c'est un sport de combat ?
Je sais pas. En tout cas, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à faire de la boxe pour avoir les pieds un peu plus sur terre. Et d'ailleurs, c'était avec un homme qui s'appelle Dominique Valera, qui était assez pointu.
C'était un champion, non ?
Champion, ouais. Ouais. C'est moi, j'aime bien les champions. Non, pas du tout. On fout des champions.
Vous avez le droit.
Non, pas du tout. Mais je m'en suis rendu compte après. Donc, il avait ouvert un cours. Je sais pas si d'ailleurs il est encore. Je ne sais même pas s'il est encore vivant, Dominique Valera, peut-être, on verra. On verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, il m'appelait la libellule, parce que je ne touchais pas terre. J'étais très, très dans les airs. Et il m'a vraiment aidé à reprendre, à toucher le sol, en fait, à être. Puis ensuite, j'ai pas fait les combats, parce que, bon, je voulais continuer quand même à gagner ma vie comme mannequin, donc c'était un peu chaud si j'arrivais avec la gueule en vrac. Mais donc, j'ai pas. Mais ces entraînements étaient super importants. Donc peut-être après, par rapport au théâtre, ça m'a aidé à être un peu plus concrète, un peu plus terrienne. Mais Catherine Hegel m'a vraiment aidé à être concrète, pour le coup. Parce que j'ai commencé mes études au conservatoire avec Daniel Mesguich, qui, alors là, ne m'aidait pas du tout à être concrète. On prenait des murs imaginaires, on tournait dans des belles robes. Alors lui, il pensait qu'on voulait être actrice pour porter des belles robes. Donc c'était vraiment... c'était pas du tout là où je me disais que je voulais aller. Je savais pas encore très bien où je voulais aller, mais alors, là... c'est marrant, il y a des parcours qui se construisent plutôt par défaut, quoi, par non-choix. Donc là, c'était pas un choix que je voulais faire. Et Catherine Hegel m'a sauvée en deuxième année, parce que je me suis dit, je vais partir, en fait, c'est pas du tout pour moi. Enfin, ce que je suis en train de fuir en tant que. Enfin, j'ai envie de devenir sujet, de transmettre des textes. J'ai fait quelques études de lettres, pas très longtemps, mais voilà, j'aime. Tellement la littérature, les mots, que j'ai envie de transmettre quelque chose et j'ai envie d'être dans une quête vraiment de vérité. Et là, ça ne va pas du tout. Donc, heureusement, Catherine Hegel, oui, m'a tirée aussi vers le sol et vers un grand... Ça a été un grand bonheur de travailler avec elle sur le Marivaux.
Fabien Gorgeard, je l'évoquais, pour ce spectacle, Stallone, mais il y avait eu aussi, puis on en a parlé avec Catherine Hegel, puisqu'il l'a mise en scène depuis, il y avait eu ces films, Diane à les épaules, qui mettaient enfin en valeur votre potentiel comique, Clotilde M, et puis Chaos, ensuite, avec le même, mais le vrai chaos, on va dire que c'est la mort, je ne peux pas ne pas évoquer cette rencontre à la fois si importante et inachevée avec Patrice Chéreau, puisqu'il y a eu deux projets inaboutis avec lui, le troisième devait être le bon, et c'était Comme il vous plaira, de William Shakespeare, prévu aux ateliers Berthier de l'Odéon Théâtre de l'Europe il y a exactement 10 ans, en mars 2014. Donc avant d'évoquer la place qu'il a pu avoir, on va l'écouter. En juin 2009, c'était l'invité du... Le musée du Louvre, Patrice Chéreau, il avait conçu une exposition, il avait créé sa mise en scène de Rêve d'automne de Jon Fosse. Dans les salles du musée, il m'avait demandé d'animer une rencontre entre lui et son scénographe de toujours, Richard Peduzzi. Dans cet extrait, on va entendre Patrice Chéreau évoquer son travail sur Rêve d'automne.
Le décor a été monté et le premier jour de répétition, j'ai demandé aux acteurs qui étaient là de se promener simplement dans le décor. Et ne m'en est revenu qu'une une seule impression de terreur. Je n'ai eu aucune idée. Mais maintenant, je me souviens des acteurs, je me souviens de Valérie Pascal déambulant dans le décor et essayant de chercher des marques. Donc c'est à cette impression-là que je me raccroche. À part ça, je suis quelqu'un maintenant qui ne cherche plus à savoir ce qui va se passer. Je veux dire par là, avoir deux comédiens et brusquement démarrer avec eux, d'abord, c'est voir comment le texte, entendre comment le texte résonne en eux, les laisser divaguer et s'approprier le texte et commencer à intervenir par petites touches, petit à petit, mais sans que j'aie jamais aucun plan, sans que je ne cherche à savoir... Oui, je savais dans Rêve d'automne, par exemple, que je voulais les deux personnes qui sont mortes, c'est-à-dire la grand-mère et le petit-fils. Mais je ne savais absolument pas comment les inclure dans la narration. Et je l'ai su très très tard. Je l'ai su à force en travaillant avec Thierry Niang qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et je l'ai su vers deux semaines quelquefois avant la première. C'est la différence entre... Il y a une idée, et quelquefois c'est peut-être pareil pour les décors, il y a une idée et après il faut la faire rentrer dans la réalité. Et quelquefois elle ne rentre pas. Quelquefois elle ne veut pas y rentrer. Quelquefois le décor ou le texte vous impose des choses qu'on ne peut pas. Vous interdit de faire des choses et vous impose des choses que vous devez faire, que vous devez suivre, en tout cas.
Alors, si le public que je représente en face de vous ce soir ne vous a jamais vu jouer sous la direction de Patrice Chéreau, Clotilde M., il n'empêche que cette rencontre, elle a été féconde, et beaucoup de rencontres, beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous a apporté ?
Patrice Chéreau, c'est particulier parce que c'est un désir inachevé. Et donc ensuite il y a le désir et il y a l'amour qui est possible et là en fait il n'y a pas eu d'amour. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai le sentiment parce que Shakespeare aussi est très présent avec Patrice et là avec la rencontre d'un Christiane Jataï, j'ai le sentiment c'est presque psychanalytique, mais le désir n'est pas et là l'amour est là. L'amour avec Jataï est très présent. C'est quelqu'un qui est... J'ai jamais eu affaire à un système, enfin, de relation de pouvoir avec Patrice. Jamais. Ça a été une rencontre absolument très très humaine, des discussions ultra chaleureuses, avec beaucoup d'écoute et beaucoup de oui, il y avait un grand intérêt l'un pour l'autre, il y avait une grande force. Mais voilà, il lui a plu, comme il vous plaira, il lui a plutôt plu de ne pas rester. Mais il n'en avait vraiment pas conscience. Je me souviens donc des scènes imaginaires que nous avons enregistrées avec vous, Arnaud Laporte, sur la scène de l'Odéon en 2013. Où il évoque avec Gérard de Sarthe le fait que de Sarthe lui a dit à un moment on répète d'Hamlet, puisque Gérard de Sarthe a joué Hamlet sous la direction de Patrice Chéreau, de lui foutre la paix, d'arrêter de parler et de le laisser travailler. Et donc là, Patrice répond j'ai fermé ma gueule et peut-être que c'est ce qui va arriver avec Clotilde. Donc il est vraiment dans une projection de notre travail futur et 6 mois après, il meurt. C'est donc oui, ça m'a laissé dans une sorte de d'effarement, enfin de sidération assez grande parce que j'étais pas du tout préparée non plus à son départ. Mais ensuite, Luc Bondy m'a chopé comme ça par le col et m'a dit allez, remonte sur le bateau. Moi, je n'ai pas du tout envie de retravailler tout de suite, mais nous avons donc travaillé sur Tartuffe et monté Tartuffe avec Micha, Lesco et c'était fabuleux. Mais oui, il y a comme c'est très particulier. Il a été là très longtemps aussi. Je pense que il hante aussi encore un petit peu le plateau de l'Odéon, puisque la dernière fois où je suis montée sur ce plateau, c'était avec lui. Donc ouais, c'est pas rien. Donc pas bon. Je vais lui demander là.
De vous laisser tranquille un peu.
De nous laisser un petit peu travailler parce que parfois il se passe des choses un peu étranges sur le plateau de l'Odéon. Et donc s'il en est responsable, je lui demande officiellement de nous laisser tranquille.
Voilà, le message est passé. Alors, il y a eu ces discussions avec Patrice Chéreau sur Shakespeare. Vous y aviez aussi été confronté dans une autre relecture avec Lear is in Town, une adaptation signée Olivier Cadio et Frédéric Boyer dans une mise en scène de Ludovic Lagarde. Est-ce que ces approches préalables, est-ce qu'elles ont nourri d'une façon ou d'une autre ou pas du du tout cette Hamlet que vous jouez aujourd'hui, Clotilde.
Ben, le rapport à la poésie, à la métaphysique de Shakespeare, en fait, que j'avais jamais vraiment perçu. Pour moi, c'était toujours un petit système de pouvoir, de domination à l'œuvre, comme ça, dans les mises en scène, en tout cas d'Hamlet, que j'avais pu voir. Enfin, j'ai vu Chéreau en vidéo, mais le Ostermayer, par exemple, on sent beaucoup ce patriarcat à l'œuvre, ce rapport de violence patriarcale à ne pas reproduire, et qui des interprètes aussi, tel Gérard de Sarthe, ne s'en remettent jamais, en fait. On voit et on parle toujours de ça, de sorte de fantasme de jouer Hamlet et de jamais s'en remettre. Non, mais parce que c'est décollé de la réalité, en fait, de ce qu'on raconte. Alors qu'Hamlet, c'est chacun de nous, c'est vraiment aujourd'hui. C'est ça que fait Jataille prodigieusement, c'est qu'elle arrive totalement à le ramener. Et c'est pas pour faire moderne, c'est vraiment parce que c'est une contemporanéité. On est en train de parler d'aujourd'hui de comment ne pas reproduire la violence qui est intégrée, la violence qu'on a en nous, toutes hommes et femmes. Et comment ne pas la reproduire, comment essayer de déjouer cette violence, comment essayer de trouver les leviers du changement à l'intérieur d'un système qui est, oui, là, qui est celui de la tragédie. Donc, on ne va pas pouvoir tout changer, mais déjà, il y a des petites révolutions ou des grandes qui sont possibles en changeant une chose. On peut continuer à modifier le cours des choses, et c'est ça qu'on fait. La grande révolution de la pièce, c'est, oui, c'est qu'Ophélie ne meurt pas, c'est pas qu'Hamlet soit une femme, là. Enfin, à la fois, j'entends aussi beaucoup dire que, oui, c'est pas la première fois qu'Hamlet est représenté par une femme, mais c'était toujours des personnages masculins que les femmes représentaient. Ça ne changeait pas la dramaturgie, en fait. Donc nous, Ophélie qui ne meurt pas, le fait que j'essaye de ne pas reproduire cette violence que j'ai intégrée aussi, c'est pas pour prendre le pouvoir, c'est pas pour prendre la place de Claudius, c'est pour ne pas reproduire cette violence et pour essayer de modifier le cours des choses.
Au départ, Christiane Jataille explique qu'elle est venue avec une adaptation quasi complète de la pièce pour un premier temps de travail collectif, de lecture, de discussion, d'improvisation. Bon, il y avait quand même ce choix que vous incarniez le rôle titre d'Hamlet et d'en faire un personnage féminin. Ça change quelques mots hein, dans le texte, c'est vraiment très, très peu. Mais dans ce premier moment de travail, qu'est-ce que vous avez, vous, amené? Quelle proposition? Quelle réflexion?
J'ai amené Gilbert Bécaud, pardon. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais... j'ai amené ma lutte, je crois. Je fais des blagues, mais parce que je pense qu'on a été connectés aussi à ça tout de suite. Enfin, on s'en est très vite parlé du fait que oui, c'est une femme en lutte. Donc, quand je disais oh non, mais peut-être que là, la colère, c'est trop. Elle me disait mais non, une femme en colère qui lutte, c'est une femme en colère. Il y a du débordement. Il y a de la rage, il y a de la colère, ça explose, ça déborde. Ensuite, elle pleure, elle crie, elle demande pardon, c'est une femme qui lutte. Donc c'est, oui, ça modifie. C'est pas juste, c'est pas le Hamlet mélancolique, froid et calculateur qui se prend pour le centre du monde. Non, la folie, on ne se pose même pas la question, c'est la folie du monde qui touche Hamlet. Mais c'est pas la folie du personnage, en fait. Il n'y a pas à se poser la question de la folie d'Hamlet. Et pourtant, c'est même une question que j'ai eue, moi, au début du travail. Mais comment représenter la folie? Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas la question du tout.
C'est pas du tout la question dans le spectacle, en effet. Mais alors, il y a eu ensuite une nouvelle adaptation, deuxième phase de répétition. Tout à l'heure... Catherine Yagel, pardon, parlait de l'importance et du luxe qu'elle avait eu de répéter avec Strehler dans les costumes dès le début. Mais alors, là, avec Christiane Jataille, on sait qu'il y a un travail de cinéaste qui est fait. Il y a une part filmique qui est importante. Il y a la scénographie qui évidemment, compte. On se dit donc que le véritable travail a pu commencer pour vous et vos camarades sur le plateau quand vous avez eu tous les éléments. Mais c'est intervenu à quel moment, ça ?
Le début et la fin du spectacle appartiennent plutôt au rêve, à quelque chose de plus immatériel, de plus obsessionnel, de plus inconscient. Donc on a travaillé plutôt sur la réalité, enfin l'hyper-réalisme du milieu du spectacle, je dirais, donc les vidéos qui sont plus présentes, parce que chez Christiane Jatahi, et d'ailleurs je pense aussi, je le pense de plus en plus, le cinéma appartient au passé, et le théâtre au présent, vraiment. Donc on a travaillé sur le présent, littéralement, du théâtre, et qui concerne plutôt le cœur de la pièce.
Ouais. Alors, il y a tout ce travail en amont, bien sûr, et puis il y a quand même un acteur qui arrive à la fin, c'est le public.
Oui.
On écoute Christiane Jatahi, qui était mon invitée dans cette émission, c'était le 1er juillet 2022.
Le public, c'est vraiment important pour moi. Le théâtre n'existe pas sans le public. Le théâtre seul existe au moment présent, différent du cinéma, qu'on peut voir 20 ans après, il est film arrivé. Si le théâtre n'arrive pas au moment qu'il est en train d'être présenté, il jamais arrivera. Ça, c'est aussi partie de ce que je parle beaucoup à les personnes qui travaillent avec moi, que c'est quand vous êtes sur les plateaux, c'est important que vous êtes affecté pour tout. Tout ce qui se passe, ça va changer. Ce ne sera jamais le même. Et le public n'est jamais le même. Et donc, la présence du public, la manière que le public regarde, la réaction du public va changer vraiment la pièce que nous sommes en train de faire. Et donc, si je pense ça, je pense que c'est important de vraiment faire un spectacle où le public peut être. Et j'entends, hein, quand j'ai, pour moi, c'est important d'avoir après les réactions, les présences, les questions que le public va me traiter, parce que un spectacle, il ne finit pas la création au moment de la première. Pour moi, ça commence un nouvel moment où j'ai vraiment continué à travailler, où j'ai vraiment continué à développer et changer le spectacle. Parce que je veux que le spectacle puisse continuer, au plus arriver dans des choses que j'ai peut-être, parce que les artistes ne sont pas super-héroïnes, ou ils ne vont pas toujours faire les savoir si c'est parfait ou pas. Donc, on cherche. Et chercher, c'est vraiment quelque chose qui c'est important de dire, peut-être c'est important d'échanger.
Alors si j'ai bien compté, Clotilde, vous avez joué pour l'instant 12 fois Hamlet avec du public. Qu'est-ce qui vous semble avoir le plus changé depuis la première?
Je pense que les gens ont un peu compris qu'on était en face d'une adaptation. Et qu'il y avait des textes qui étaient aussi... 90% du texte, c'est Shakespeare, mais il y a quelques ajouts d'Ainer Müller et de Virginia Woolf. Et puis, une sorte de patchwork, de montage du texte. C'est pas la narration... Enfin, c'est pas totalement Hamlet, dans sa construction narrative, respectée. Donc, il y a quelque chose vraiment... Il y a un travail... qui a été fait, et ça, je pense qu'il y a eu un petit malentendu, peut-être au début, parce qu'on, voilà, à l'Odéon, au 6e, Hamlet de Shakespeare, ben vous, il y a des puristes, shakespeareologues qui arrivent, et là, qui se disent non, ce n'est pas Shakespeare. Mais alors, ça nous a fait des petites, c'était amusant. Moi, ça m'était jamais arrivé, hein, des gens qui partent comme ça en disant, c'est une honte, Shakespeare est en miettes. voilà, vous n'avez aucun respect pour Shakespeare. C'est plutôt, ouais, il faut pas se sentir trop déstabilisé par ça. On a vite fait de reprendre, voilà, le.
Mais dans cette recherche dont parle Christiane Jatahi, entre vous, l'équipe, avec elle.
Bah, en fait, on sent qu'on est, et c'est ce qu'on se dit à chaque fois avant de démarrer, on ne peut pas construire seul, jamais. C'est absolument fondamental, les relations qu'on a. On a toujours travaillé comme ça avec elle, d'établir des relations entre nous, avant même que le texte arrive. Donc, ce qui est le plus important, c'est la réaction à l'autre, c'est ce qui se passe par rapport à ce que les autres font. Alors, même quand moi je suis seule face au public, c'est par rapport aux réactions du public, par rapport à l'écoute, au ratio et le public. Il n'y a pas de ratio dans la pièce, et au ratio et le confident et celui qui va pouvoir, parce que ça va être le seul qui survit d'ailleurs, donc il va pouvoir transmettre l'histoire. Donc vraiment avoir ne pas être contre, même si on sent être complètement avec le public dans une sorte de confidence et de partage. Donc ça change, oui, tous les jours. Et l'intérêt qu'elle a, enfin, pour le spectateur, c'est-à-dire même géographiquement, elle bâtit la pièce pour que chaque spectateur où il se trouve dans le théâtre puisse avoir accès au spectacle et puisse le et puisse le comprendre. Et c'est pour ça que cette scénographie est fabuleuse, avec tous ces jeux de miroirs où on peut, et la télé qui peut retranscrire aussi certaines choses qu'on ne peut pas voir si on n'est pas bien placé, comme Arnaud Laporte.
C'était gratuit, mais bon. Ben, au départ, non, mais comme ils sont très gentils, au Odéon, ils m'ont replacé. Dans Hamlet, en effet, il y a plusieurs moments où vous êtes seul à l'avant-scène, Clotilde Dem, vous adressant donc à nous, Horatio, nous, le public Horatio, et notamment cette fin de spectacle que je ne divulgacherai pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, on revient au concret, concrètement, physiquement, en vous, qu'est-ce qu'il faut convoquer dans ces moments-là?
Alors, assez rapidement, elle m'a dit, parce que moi, je me disais, non, mais ce tube-là, être ou ne pas être, on va pas le dire, on va pas le faire, enfin, on va couper ça. Ah non, tu vas le dire. Oui, bien sûr.
Bah, tout le monde serait bien parti, sinon.
Ouais, c'est ça. Alors, vraiment, Shakespeare, t'es vraiment en miettes. Non, ça a été assez rapidement, très simplement, elle m'a dit, voilà, tu es en face de ta rage, ton doute et ta mort. Très bien, facile, ok, on va y aller.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ces mots-là?
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire que c'est un rapport à la... À la nudité, à la vérité, à la recherche de plus de vérité possible, et dire ces mots-là, qui sont les mots d'une lutte, être ou ne pas être, agir ou ne pas agir, être, voilà, supporter ou se révolter, accepter ou ne pas accepter. Donc, oui, c'est dire l'humiliation des arrogants, la lenteur des procédures, la douleur de ne pas être aimé en retour, tout ça le dire avec le plus de vérité possible. Après tout ce début où nous sommes derrière un tulle qui et là c'était le masque tombe et la vérité doit être dite avec le plus de
faut être au présent.
Alors, de présent possible, ouais. Voilà, merci.
Présent, avenir, il y a beaucoup de rôles autres que ceux-là. Il y a la série Lupin, il y a HPI, il y a bientôt Le Signal, d'après le roman de Maxime Chatan. Il y aura Largo Winch, il y a un livre, disque, album en préparation avec Maud Lubeck. Vous disiez au début de votre carrière que vous vouliez être comédienne, non par désir d'être quelqu'un d'autre, mais parce que vous aviez peur de ne jamais arriver à être vous-même. J'ai l'impression que vous êtes pleinement vous-même aujourd'hui.
Oui, j'ai le sentiment de vraiment une sorte de d'adéquation. Enfin, je m'aligne et je défends des causes à l'intérieur de mon travail, en dehors, qui se rejoignent. Et donc, oui, c'est plutôt joyeux.
Joyeux, c'est ce qui vient en tête en pensant à Hamlet. Ce spectacle de Christiane Jattei qui est en ce moment à l'Odéon et jusqu'au 14 avril. Dire qu'avec sur le plateau avec vous, il y a Isabelle Abreu, Tom Hadjibi, Servane Ducor, David Oury, Tonan Quinto, Mathieu Samper, et puis celles et ceux qui sont là par la grâce des films et vidéos. Dire qu'il y aura une longue tournée, d'abord à Vienne, aux Nuits de Fourvière à Lyon du 11 au 13 juin. Il y aura Amsterdam, il y aura Barcelone en octobre. On vous retrouvera au 104 à Paris, puis à Brest, au Quartz, à la Comédie de Clermont-Ferrand, à Anvers. Merci Clotilde Dem d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
En publiant leur troisième album sous le titre de Patience en 2019, le groupe de Philadelphie, Mannequin Pussy, semblait nous prévenir que le meilleur restait à venir. Il suffisait simplement d'attendre 5 ans, en l'occurrence, pour qu'ils publient I Got Heaven, leur meilleur album à ce jour. Comme le montrent notamment les parties vocales parfois hurlées de Marisa Dabis et de Collins Regisford, cet album est un véritable cri du cœur. Le groupe brasse au long de 10 titres des influences punk, emo et power pop qui font résonner de plus belle les appels à l'autonomie féminine et à la libération du désir. Le morceau I Got Heaven, qui donne son titre à l'album et qui confronte l'animalité des corps aux images sacrées, en est un manifeste. C'est notre son du jour.
Protection and assurances that all would be delivered.
C'était I Got Heaven de Mannequin Pussy, le groupe qui sera en concert à Paris le 4 juin et à Tourcoing le 5 juin.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je me trouve à Clermont-Ferrand pour la 39e édition du festival Vidéoforme. Alors cet événement est dédié aux arts vidéo et numériques, il se déroule jusqu'à la fin du mois de mars. Au programme, des installations, des projections, des performances, des tables rondes, le tout disséminé dans différents endroits de la ville. Et nous avons rendez-vous tout de suite dans une ancienne chapelle pour découvrir l'installation Volcanita.
Bonjour, je m'appelle Yusra Mouchtahidi, je suis une artiste iranienne, plasticienne. Je suis là pour Vidéoforme parce que j'ai fait une pièce en coproduction avec les villes de Clermont-Ferrand et aussi Évreux-les-Bains pour créer cette œuvre un peu hybride entre machine et humain.
Alors, on se trouve en face de votre œuvre. Est-ce qu'on peut dire déjà quelques mots ? Il s'agit d'une sorte de sculpture fontaine, peinte en noir, qui ressemble à un corps et qui projette un liquide noir. Comment est-ce que vous la décririez ?
C'est un corps fontaine. C'est un paysage qui s'appelle Volcanahita. C'est un mélange de deux mots, volcan et anahita. Anahita, c'est une déesse de l'amour, de la naissance, mais aussi de la mort et la destruction dans la Perse ancienne. C'est une forme de corps, un peu sculpture en métal, mécanique, qui est complètement noire, qui sort d'un bassin de l'huile noire. Il y a cette huile qui en continue en permanence, en mouvement, et donc c'est comme cette huile qui vient de l'industrie et qui coule, qui pollue, mais qui revient quand même, qui ça monte, et du coup c'est comme un cercle infini qui nettoie. Mais il y a un espoir quand même pour dire que peut-être il n'y a pas de fin.
Et quelles sont les matières utilisées pour cette œuvre ?
C'est des morceaux de fer, des machines mécaniques très anciennes que j'ai recyclées pour donner une autre vie à ce corps un peu hybride, mécanique, machine, qui ressemble à une main, pour donner une autre vie. Toutes les matières sont recyclées, donc le métal, le verre, mais aussi l'huile de vidange. C'est l'huile de vidange recyclée, donc c'est comme un phénix qui se renaît de toutes ces matières qui étaient mortes et que ça donne une autre régénération à la vie et à cette forme qui est devant nous.
On entend derrière nous là une voix un peu énigmatique avec des bruits. Est-ce que vous pourriez nous parler de la bande sonore qui est diffusée dans la salle ?
Alors c'est fait par un musicien qui s'appelle Timothée Couteau, qui m'accompagne depuis quelques années pour mes installations. Et la voix qu'on entend, c'est la voix de ma tante, Hani Mojtahedi, qui était toujours interdite en Iran. La voix de la femme est interdite en Iran. Donc pour moi, c'était un hommage à la femme et toutes les limites qu'on met dans ces droits aujourd'hui pour donner un souffle à ce corps qui est comme... encore une fois, phénix qui est rené de tout ce qui était perdu, tout ce qui était abandonné et détruit.
Gabriel Soucher, je suis directeur artistique du festival.
Depuis quand il existe ce festival Vidéoforme et qu'est-ce qu'on peut y voir ?
Alors le festival Vidéoforme a connu sa première édition en 1986. C'était la période où l'art vidéo devenait vraiment public et sortait un peu des zones obscures. Nous sommes placés sur, comme notre nom l'indique, sur les différentes formes que pouvait apporter ce nouvel outil qui était la vidéo. Et depuis ce temps-là, nous avons continué à chercher, en fait, ce que les nouvelles technologies apportaient en termes de moyens pour des écritures nouvelles, émergentes, et donc sous toutes les formes de la technologie du temps.
Quel type de public est-ce qu'on retrouve ici à Vidéoforme ? Est-ce que c'est un public jeune ou plutôt un public d'initiés ?
En fait, nous parlons de public en utilisant le pluriel. D'abord parce que nous, on fait un travail très important sur les jeunes publics en intervenant dans les classes, en faisant des appels à projets qu'on accompagne parfois avec des artistes. Mais c'est aussi monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde. Parce que d'abord, il y a des gens qui ont pris de l'âge et qui ont pris l'habitude de venir. Il y a des nouveaux publics qui s'agrègent. Tous les gens un peu curieux parce qu'en fait souvent pour entrer dans une exposition d'art contemporain il faut passer une barrière psychologique et notre gros travail c'est d'amener les gens à entrer. Une fois qu'ils sont entrés après il y a des réactions absolument intéressantes, parfois de rejet mais il y a toujours des réactions et c'est ça qui est intéressant, que l'art doit amener à une réflexion mais surtout à des ressentis, à des émotions. Et là, on le voit, je voulais peut-être expérimenter sur cette édition, il y a vraiment des réactions assez fortes et troublantes parfois.
Je suis Alain Roger-Foss, je suis musicien, je suis vidéaste et je suis au Festival Vidéoforme. Je présente mon projet Materia, qui est peut-être mon plus gros projet jusqu'à présent, où je fais mes interprétations de la nature dans ses plus intimes détails, donc les particules, la lumière, les photons, et je fais des représentations visuelles et sonores de la réalité, mais du point de vue d'un poète.
Alors où est-ce qu'on se trouve là, et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre installation ?
D'accord, nous sommes dans une chapelle romanique à Clermont-Ferrand. Donc j'ai distribué des images sur des écrans et sur diverses projections en différents formats et en différentes tailles. Donc on a déjà un grand écran sur un des côtés avec une image très étrange que je préfère ne pas révéler ce que c'est parce que ça, voilà, il faut rêver de ce que c'est cette image qui va très, très lentement, qui évolue très lentement. C'est une image réelle. Donc, dans toutes les pièces que j'ai une certaine quantité de pièces qui sont réelles. C'est la vraie nature. Donc, que je manipule en tant qu'artiste. Et d'autres, ce sont des natures que je crée artificiellement, complètement. Et je mets les deux en rapport dans le même espace. Par exemple, bon, il y a cette pièce-là, en rouge. Puis après, il y a un autre grand écran où je représente la matière et l'antimatière. Ce sont des particules de lumière qui construisent une espèce d'univers d'étoiles et il y a une série de particules d'obscurité qui viennent les détruire. Pour moi, ça me représente ce que ça pourrait être, peut-être cette fameuse matière obscure de laquelle le vide est plein. Donc, il y a aussi des petits écrans où on voit aussi un autre travail du LMV. Ils étudient donc ce qui se passe sous un microscope. Ils ont la capacité de chauffer des petits cailloux très minuscules jusqu'à 2000 degrés centigrades et essayer d'en capter le magma qui sort des rochers. Donc à un moment donné, ici, il y a un petit rocher qui chauffe, jusqu'à ce qu'à un moment, il y a un petit trou et ça éclate et il y a une petite éruption volcanique minuscule devant nos yeux.
Et cet îlot sonore, là, au centre de la chapelle, vous pouvez nous en dire un mot ?
La pièce centrale, voilà, ça c'est la pièce centrale, c'est la matière sonore qui est une structure donc en aluminium énorme qui préside l'espace. Je vais augmenter le volume pour qu'on puisse entendre. Donc c'est une pièce complètement ouverte qui me permet d'expérimenter différentes possibilités d'interaction avec le public, et pas seulement avec le public, mais aussi avec le vent ambiant, avec les lumières ambiantes. Il y a au centre de la structure, il y a une série de capteurs de lumière qui permettent que l'ombre et la lumière modifient des sons. Attendez, parce qu'il faut bien entendre ça. Voilà, vous voyez ici que la lumière, si je fais de l'ombre,
alors l'œuvre d'Alain Vergifosse occupe tout l'espace de la chapelle qui est plongée dans une pénombre. C'est une atmosphère très étrange, très immersive. Bonjour, je vous vois regarder les écrans depuis quelques minutes. On a l'impression que vous êtes complètement happé par cette œuvre.
Oui, c'est vrai que c'est très très immersif avec la musique, etc. On a l'impression vraiment d'être plongé au cœur de l'esprit de quelqu'un, de l'artiste. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant de voir ça comme ça, avec les sons, les images. Voilà.
Et quelles sont les sensations qui vous traversent ?
Et bah, en fait, c'est plutôt un peu angoissant, je dirais, avec les effets sonores qui sont pas descriptibles du tout. Les images sont pas descriptibles, en fait, on peut pas tellement poser de mots sur ce qu'on voit. Et d'un côté, ça nous perd un peu, et en même temps, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le fait de pas chercher vraiment à savoir ce qu'on est en train de regarder.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai à Paris pour vous faire visiter l'École supérieure des arts décoratifs. Et merci à Marceau Vassy pour la prise de son.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.